présenté, vous l'avez compris, par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. On efface tout et on recommence. L'Assemblée nationale va ce soir revoter sur un amendement pourtant adopté hier soir suite au tollé provoqué par ce texte qui prolonge les avantages fiscaux liés à l'utilisation d'huile de palme dans les biocarburants. La majorité va rétro-pédaler à la demande du gouvernement. On voit ça dans un instant avec Rosalie Lafarge. Aux États-Unis, une nouvelle audition gênante pour Donald Trump dans l'enquête menée en vue de son éventuelle destitution. L'ancienne ambassadrice américaine en Ukraine témoigne en ce moment devant la commission d'enquête et en direct à la télévision, ce qui énerve prodigieusement le président américain qui l'attaque en direct sur Twitter. Louis Glory nous appelle de Washington. Au Chili, le processus en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution avance et c'est l'accord politique le plus important depuis le retour de la démocratie en 1990 qui semble se préparer. Reportage à suivre de Justine Fontaine à Santiago du Chili. Et puis l'enquête de cette édition en fin de journal sur les activités et missions de Ségolène Royal, ambassadrice française pour les pôles, et sur les moyens qui lui sont alloués par le Quai d'Orsay. Une enquête signée ce soir Sylvain Tronchet. Un nouveau vote donc à l'Assemblée nationale prévu ce soir sur les avantages fiscaux liés à l'utilisation d'huile de palme dans la fabrication de biocarburants. Un nouveau vote qui aura probablement lieu dans la nuit et qui illustre le profond malaise qui s'est emparé de la majorité depuis cette nuit sur la question. Dans la soirée d'hier, en effet, a été voté sans débat préalable un amendement permettant de prolonger ces avantages fiscaux relatifs donc aux produits à base d'huile de palme. L'huile de palme occasionnant, on le sait, une déforestation massive. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Ce vote organisé en catimini hier soir a provoqué la fureur des défenseurs de l'environnement, la colère de nombre de députés, y compris de la majorité, et puis finalement l'intervention d'Édouard Philippe qui dit cet après-midi regretter l'absence de débat suffisant sur un sujet aussi important. Un Premier ministre qui veut effacer sans doute une erreur et qui sollicite donc un nouveau vote, c'est ce qu'il pense. Il faut répondre au tollé aussi peut-être, faut-il répondre. Paraît un gros bug au sein de la majorité, Rosalie.
Oui, l'an dernier, l'Assemblée nationale adopte de justesse l'exclusion de l'huile de palme de la liste des biocarburants dès le 1er janvier 2020, ce qui vient acter la fin d'un gros avantage fiscal pour Total. Hier soir, elle repousse à 2026. Sentiment extrêmement désagréable de s'être bien fait avoir. Voilà ce qu'écrit par exemple la marcheuse Barbara Pompili sur les réseaux sociaux. Impression partagée par son ancien collègue Mathieu Orphelin.
Sur un sujet comme ça, la démocratie, ça peut pas être un amendement présenté en un mot et sans qu'il y ait aucun débat.
Mathieu Orphelin a quitté la majorité et en écologiste convaincu, il ne digère pas l'adoption de cet amendement co-signé par des députés Modem, LREM et LR des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, où Total a ouvert une bioraffinerie qui prévoit de traiter jusqu'à 300 000 tonnes d'huile de palme par an.
Tout le monde savait que depuis plusieurs mois, Total faisait beaucoup d'actions de lobbying pour essayer de convaincre le gouvernement de faire reculer les parlementaires sur ce sujet-là. Donc effectivement, ça a été peut-être passé un peu en catimini. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais dans tous les cas, c'est pas acceptable. On était sur tout sauf un sujet annexe, tout sauf un amendement uniquement de faible portée. Au contraire, c'est une question très importante.
On ne peut pas, selon les détracteurs de cet amendement, à la fois ériger l'écologie en priorité de l'acte 2 du quinquennat et dans le même temps faire passer ce genre de mesures. Surtout que ce n'est pas la première tentative du gouvernement sur ce sujet, selon la patronne du groupe PS à l'Assemblée, Valérie Rabault.
Ce que je constate, c'est qu'il y a une forme d'insistance de la part du gouvernement qui, l'année dernière, n'était pas content que l'Assemblée nationale ait décidé de faire en sorte que l'huile de palme ne puisse pas être utilisée sur les carburants comme c'était prévu, et que cette année, il recommence, vous savez, c'est un peu quand on vous ferme la porte, il tente de rentrer par la fenêtre. Et bien, c'est ce qui s'est passé hier.
Selon plusieurs députés de la majorité, la mesure devrait être supprimée après son réexamen ce soir.
Merci beaucoup Rosalie Lafarge. Les syndicats étudiants sont reçus depuis hier par le gouvernement en l'absence de Frédéric Vidal en déplacement à l'étranger. C'est le secrétaire d'État Gabriel Attal qui les reçoit pour les entendre sur le fléau de la précarité sur les campus à la suite de la tentative de suicide la semaine dernière d'un étudiant de Lyon 2. Lafage et l'UNEF ont déjà demandé une réévaluation urgente des bourses universitaires. Aujourd'hui, ce sont Solidaires, l'UNI et la FSE qui doivent se succéder au ministère, alors que de leur côté, les étudiants nantais expriment leur colère en bloquant les amphis. Des dizaines de jeunes ont bloqué aujourd'hui les facs du campus Tertre et les cours ont dû être annulés. Écoutez Johan, étudiant en lettres, au micro de nos confrères de France Bleu Loire-Océan.
Être précaire pour un étudiant, c'est normal. Et c'est vraiment là-dessus qu'on souhaiterait interpeller à la fois l'administration, le CROUS, et aussi les autres étudiants qui vivent cette situation, c'est que ce n'est pas normal, en fait. C'est pour ça qu'on est obligé de bloquer les universités pour provoquer cette discussion. Tout le monde le cache, effectivement, c'est caché. Et c'est ce qui nous fait peur, en fait. C'est que tout le monde subit et personne n'agit, personne ne fait rien. Et on est obligé de bloquer les facs pour que ces questions se posent. Et on est obligé de se mettre, de s'immoler pour que ces questions se posent. Et on n'a pas envie d'en venir jusque-là, quoi.
Juste après ce journal, le temps du débat avec Emmanuel Laurentin sera consacré à cette question étudiant à quel prix? Rendez-vous à 18h20. Plus de 200 actions sont annoncées partout en France demain à l'occasion du week-end anniversaire de la naissance du mouvement des Gilets jaunes. La volonté de remobiliser semble assez claire, notamment à Paris, où les autorités s'attendent à l'afflux de plusieurs milliers de personnes, dont des manifestants radicaux. Ce matin, déjà une centaine de manifestants ont bloqué une usine chimique classée Seveso à Montoire de Bretagne, en Loire-Atlantique, près de Saint-Nazaire. Un nouvel épisode dans l'affaire Benalla. Un homme, un témoin clé de cette affaire, affirme avoir des informations importantes à donner aux enquêteurs, mais il affirme aussi que ces derniers n'ont pas cherché à l'entendre. Des informations notamment sur l'existence d'un deuxième coffre-fort appartenant à Alexandre Benalla. Ces informations seraient en la possession de cet homme. Un deuxième coffre-fort qui se serait trouvé à l'Élysée au moment où a éclaté le scandale. Les précisions de Stéphane Père.
Le nom de Chokri Wakrim apparaît au printemps dernier dans un article du quotidien Libération. Ce militaire, ex-membre de l'état-major du commandement des opérations spéciales, est alors désigné comme l'homme qui a possiblement déplacé le coffre-fort d'Alexandre Benalla à son domicile d'ici les Moulineaux avant la perquisition des policiers. Chokri Wakrim est aussitôt saqué par sa hiérarchie et depuis, le militaire clame son innocence à qui veut l'entendre. Non seulement il affirme être étranger à la disparition de ce premier coffre, mais il veut aussi évoquer l'existence d'un deuxième coffre à l'Élysée appartenant à Alexandre Benalla. Après 9 mois d'enquête préliminaire et l'ouverture d'une information judiciaire ce mois-ci sur la disparition de ce coffre, le militaire a écrit hier au procureur de la République pour s'interroger sur cette lenteur de l'enquête le concernant. Le militaire se dit pressé de donner sa version des faits. Afin de pouvoir être rétabli dans ses fonctions et son honneur, selon une source proche de l'enquête, son audition en qualité de témoin est programmée par la brigade criminelle de Paris.
Les explications de Stéphane Père. À l'étranger, manifestation d'agacement extrême ou preuve de faiblesse. Aux États-Unis, Donald Trump a tenté cet après-midi, très directement et même en temps réel, de perturber l'audition de l'ex-ambassadrice américaine en Ukraine. Marie Jovanovitch est actuellement entendue en direct à la télévision par la commission d'enquête chargée d'instruire la procédure en impeachment qui vise Trump. Et au moment même où débutait sa déposition, la diplomate a été accusée de tous les maux dans un tweet particulièrement acide du président américain. Partout où elle est passée, a écrit Trump, les choses ont mal tourné. Elle a débuté en Somalie. Regardez comment ça s'est terminé. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir.
Correspondant de France Culture à Washington, Marie Jovanovitch a évoqué au début de son audition ces attaques du président américain, parlant de tentatives d'intimidation qui ne devraient cependant pas l'empêcher de parler.
Non, mais Marie Jovanovitch, effectivement, dit s'être sentie parfois menacée, intimidée et même dévastée. Les démocrates l'ont présentée comme un témoin exemplaire. Elle a une très longue carrière de diplomate derrière elle, 33 ans au service des États-Unis. C'est une personnalité non partisane, surtout puisqu'elle a servi sous George W. Bush, puis sous Barack Obama. En Ukraine, Marie Jovanovitch était perçue comme une championne de l'anticorruption. C'était le sens de son action avant qu'elle ne soit donc limogée du jour au lendemain. L'ex-diplomate raconte ainsi ce coup de fil au milieu de la nuit, lui demandant de rentrer à Washington. Aucune raison invoquée, mais elle avait fait, Benoît, l'objet d'une campagne de dénigrement de la part de Rudy Giuliani, l'avocat personnel de Donald Trump. C'est cette partie du récit qui intéresse les démocrates. Ils veulent prouver que Marie Jovanovitch, l'incorruptible, gênait les plans du président. Cette fameuse enquête qu'il réclamait à Kiev au sujet de son rival Joe Biden. Les républicains, eux, s'attachent à montrer que Marie Jovanovitch, tout exemplaire qu'elle soit, n'est qu'un témoin de seconde main.
Et dans cette confrontation, Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a franchi hier, Loïc, une nouvelle étape. Elle parle désormais de faits de corruption.
Oui, c'est une première depuis le début de cette procédure d'impeachment. Benoît, ce n'est pas anodin puisque la corruption est l'un des chefs d'accusation cités par la Constitution pour justifier une destitution. Alors bien sûr, on n'en est pas encore là. Nancy Pelosi promet qu'elle n'a pas décidé pour l'instant de mettre ou non le président en accusation. Mais elle ajoute que les faits sortis des auditions de mercredi dernier faisaient apparaître presque petit ce reproché à Nixon dans les années 70. Les démocrates avaient pris l'habitude de laisser de tels exagérations aux républicains. Ils sont visiblement en train de monter en puissance. Mais attention à ne pas lasser les Américains. L'audition de Mary Yovanovitch se poursuit. 8 autres sont prévus la semaine prochaine.
Merci beaucoup Loïc Laurie, en ligne avec nous depuis Washington ce soir. Sur la question ukrainienne, un sommet en format Normandie sera organisé le 9 décembre à Paris. Emmanuel Macron recevra à l'Elysée le président russe Vladimir Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Des avancées majeures pourraient être actées à l'occasion de ce sommet, d'après la présidence française, alors que le désengagement des troupes dans plusieurs zones de tension a été engagé depuis plusieurs jours. Un accord historique cette nuit au Chili, après quasiment un mois de manifestations, parfois très violentes. Les parlementaires viennent de se mettre d'accord en vue de la rédaction d'une nouvelle constitution. Et dans le pays, il s'agit ni plus ni moins que de remplacer un texte adopté sous la dictature d'Augusto Pinochet en 1980. Au terme de l'accord visiblement trouvé, la coalition de droite au pouvoir et la majeure partie de l'opposition acceptent d'organiser un référendum en avril prochain. Ce sera donc aux citoyens chiliens de dire s'ils veulent, oui ou non, une nouvelle constitution et de dire également par qui, selon eux, elle devrait être rédigée. Depuis Santiago du Chili, Justine Fontaine.
Deux questions devraient être posées aux Chiliens en avril prochain, à peu près en ces termes. Voulez-vous une nouvelle constitution? Et si oui, souhaitez-vous une assemblée de citoyens spécialement élus pour la rédiger? Ou bien une assemblée constituée pour moitié de parlementaires déjà en poste? La droite chilienne a donc finalement cédé à l'idée d'une assemblée constituante tant demandée par les manifestants. Gabriel Boric, député d'opposition de gauche, salue cet accord et rend hommage aux blessés et morts depuis le début du mouvement.
Ils sont muchos. Los chilenos y chilenas que en estos días...
Beaucoup de Chiliens et Chiliennes sont allés jusqu'à risquer leur vie pour faire du Chili un pays plus juste.
Por hacer de Chile un país más justo.
C'est principalement grâce à eux et à elles que nous sommes ici aujourd'hui.
Gracias a ellos y a ellas que hoy día estamos acá.
Le gouvernement, par la voix de son ministre de l'Intérieur, a aussi salué un pas en avant historique vers la construction d'un nouveau pacte social, je cite. Et le président du Sénat, Jaime Quintana, issu d'un parti de centre-gauche, a voulu pour sa part répondre à la défiance des manifestants vis-à-vis de la classe politique.
Nous sommes responsables effectivement des injustices dénoncées par les Chiliens auprès de nous. Le message a été clair et aujourd'hui c'est une victoire pour tout le pays.
Un tel accord était en effet impensable au Chili il y a encore un mois, mais les négociations vont se poursuivre, notamment pour tenter d'assurer la parité et la participation des peuples indigènes dans la future assemblée constituante qui serait élue l'année prochaine si les Chiliens le décident.
Justine Fontaine. En Tunisie, Habib Jemli, candidat d'Ennahda, a été choisi pour devenir Premier ministre. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives en Tunisie, a proposé en effet cet ancien secrétaire d'État pour former le prochain gouvernement. Ingénieur agricole de formation, Habib Jemli, 60 ans, est un ancien secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture. Au Liban, 30e jour de contestation pour des dizaines de milliers de personnes qui continuent de réclamer des réformes profondes et qui ont accueilli aujourd'hui avec consternation et colère des informations sur la désignation du probable nouveau Premier ministre qui devra succéder à Saad Hariri qui a démissionné sous la pression de la rue. Selon de hauts responsables et selon la presse locale, les principales forces politiques libanaises sont en effet convenues de désigner l'ex-ministre des Finances Mohamed Safadi, 75 ans, soit un pur produit de la classe politique honnie par une grande partie des Libanais désormais. À Beyrouth, la correspondance d'Aurélien Colli.
Des pluies diluviennes n'ont pas facilité la mobilisation dans la rue, mais des manifestations et des coupures de route ont quand même eu lieu dans certaines villes, notamment à Tripoli, grande cité du Nord, épicentre de la contestation depuis la mi-octobre, mais aussi ville d'origine de Mohamed Safadi, pressenti désormais pour devenir le nouveau Premier ministre libanais. Là-bas, des manifestants se sont rassemblés devant l'une des propriétés de ce richissime homme d'affaires, âgé de 75 ans et qui a déjà été ministre des Finances. Une personnalité bien connue, pas encore officiellement nommée, mais déjà rejetée rejeté par la rue tant il incarne le système et la vieille garde politique dont les Libanais veulent justement se débarrasser. Son nom aurait émergé après le refus du premier ministre sortant, Saad Hariri, de rediriger un cabinet qui ne soit pas exclusivement technique, conformément aux revendications de la rue, mais refus du président Michel Aoun et de ses alliés Amal Hezbollah, qui veulent un gouvernement technopolitique, un mélange d'experts et de représentants des forces politiques qui pourront ainsi garder le contrôle. La mobilisation ce week-end dira si les Libanais vont se contenter de ça ou pas.
Aurélien Colli. En Australie, la situation est toujours aussi catastrophique sur le front des incendies. Ce sont de véritables tempêtes de feu qui s'abattent actuellement sur le bush. En quelques jours seulement, plus d'un million d'hectares de végétation sont partis en fumée dans le nord de l'état de Sydney et dans le Queensland. Correspondance à Melbourne de Caroline Lafargue.
Des forêts subtropicales d'ordinaire humides et moussues en proie à des murs de flammes de 50 mètres de haut dans l'état de Sydney. C'est cette image qui alarme le plus les scientifiques australiens. Dans le Queensland, le climat est sans dessus dessous. À cette époque de l'année, l'état aborde la saison des cyclones. Le voici confronté à des tempêtes de feu d'une intensité hors norme. En cause, la sécheresse exceptionnellement sévère qui perdure dans l'est du pays depuis des mois et les températures saisonnières bien supérieures à la normale. 23 professionnels des services d'incendie et de secours australiens avaient vu venir la catastrophe. Ils avaient alerté le premier ministre libéral Scott Morrison dès avril et réclamé déjà plus d'avions bombardiers d'eau et surtout des mesures d'urgence pour freiner les émissions de gaz à effet de serre. Mais Scott Morrison ne les a pas reçues. Depuis le début des incendies la semaine dernière, le premier ministre refuse de commenter l'influence du changement climatique sur l'intensité et la fréquence des feux de forêt, un phénomène pourtant bien établi par le Bureau de météorologie et l'Académie des sciences australiens et qui pousse les Verts à exiger la fin de l'exploitation du charbon dans le pays. Le vice-premier ministre Michael McCormack a répliqué, je cite, que « l'Australie connaît des feux de forêt depuis la nuit des temps, nous n'avons pas besoin des délires des écolos urbains donneurs de leçons ».
Caroline Lafargue, 18h16 sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête du service d'investigation de Radio France, consacrée ce soir aux activités de Ségolène Royal. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Benoît.
Une enquête au cours de laquelle, cette semaine, vous démontrez que Ségolène Royal utilise des moyens que le Quai d'Orsay met à sa disposition pour des missions, disons, assez éloignées de sa fonction d'ambassadrice des pôles.
Alors, pour bien comprendre, il faut savoir que Ségolène Royal est ambassadrice chargée des négociations arctiques et antarctiques depuis juillet 2017 et qu'elle dispose, pour assurer ses fonctions diplomatiques, d'une enveloppe de 100 000 euros de frais de mission et de 3 collaborateurs payés par le Quai d'Orsay. Or, il apparaît que ces collaborateurs ont été aperçus sur des missions a priori sans rapport avec la diplomatie. On a vu, par exemple, son assistante personnelle rémunérée par le Quai d'Orsay en province sur des séances de dédicace de son livre, ou alors son conseiller qui l'accompagne aux eaux de Beauval ou sur une inauguration d'aire de covoiturage à Confrançon dans l'Ain.
Et alors la question qui se pose, c'est y a-t-il un rapport entre Confrançon dans l'Ain et le monde polaire?
Eh bien Ségolène Royal, elle pense que oui, et elle l'a expliqué à une équipe de France 3 qui lui avait posé la question.
Quel est le point commun entre le pôle Nord et Confrançon? Eh bien c'est que la planète c'est quand même notre petit village. Et ce qui se passe au pôle Nord avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces a un impact ici, et de même, les bonnes actions qui sont faites sur tous les territoires ont un impact sur la baisse pour le réchauffement climatique.
Voilà, c'est comme ça que Ségolène Royal justifie le fait que, notamment, elle ait beaucoup d'inaugurations comme celle-ci en province à son agenda, parce que ce n'est pas une ambassadrice comme les autres. Hein. Clairement, elle continue à faire de la politique, ce n'est pas un secret. Elle a un agenda très chargé dans lequel on trouve aussi des opérations menées, là encore, avec le concours de certains de ses collaborateurs du Quai d'Orsay, des opérations menées par sa fondation Désir d'avenir pour la planète. Ses collaborateurs sont intervenus sur au moins 3 opérations de cette fondation. Le conseiller de l'ambassadrice des pôles est même allé au Sénégal pour superviser la pose de panneaux solaires.
Revenons peut-être un peu sur cette fondation, Sylvain Tronchet. Désir d'avenir pour la planète, c'est quoi?
Alors, elle l'a créée début 2018 avec de grandes ambitions. Hein. Son modèle, c'était la fondation Barack Obama. Hein. Elle a donc démarché de riches donateurs potentiels. Elle est notamment allée demander de l'argent à Steven Schwarzman. C'est le patron du fonds d'investissement américain Blackstone. Quelqu'un qui investit dans la logistique, le pétrole, la chimie. On est loin de la finance verte qu'elle promeut par ailleurs. Hein. C'est un proche de Trump également, qui est a priori très éloigné de sa sphère politique, mais Ségolène Royal le connaissait parce que, lorsqu'elle était encore ministre, elle lui avait remis la Légion d'honneur parce qu'il avait fait un don de 3,5 millions d'euros au château de Chambord. Mais bon, Steven Schwarzman n'a pas voulu financer sa fondation, pas plus qu'Elon Musk, sollicité lui aussi, hein, vous savez, le créateur SpaceX. De SpaceX, de Tesla, exactement. À l'arrivée, la fondation de Ségolène Royal a essuyé pas mal de refus. Elle a mené très peu de projets depuis sa création. En tout cas, sur ces projets, malgré tout, on retrouve de nouveau la présence de son cabinet d'ambassadrice d'épaule.
Et est-ce que le Quai d'Orsay, Sylvain, est informé, est au courant que des salariés qu'il paie travaillent pour cette fondation ?
Eh bien, apparemment, oui. En tout cas, un document de l'ambassade de France au Sénégal que j'ai obtenu montre que l'ambassade était informée du voyage dont je vous parlais tout à l'heure au Sénégal du collaborateur de Ségolène Royal. Alors, j'ai contacté le ministère, il ne m'a pas répondu. Le Quai d'Orsay, il est vrai, a toujours rechigné à dévoiler les moyens accordés aux ambassadeurs, particulièrement aux ambassadeurs dits thématiques, comme l'ambassadrice d'épaule. Ségolène Royal, au moment où nous avons réalisé cette enquête, a refusé de nous répondre. Elle s'est depuis exprimée dans les médias en dénonçant, je cite, des accusations diffamatoires.
Effectivement, et à l'instant, sur l'antenne de France Info, Ségolène Royal réagit à votre enquête. Sylvain, j'ai subi tellement d'attaques, de dénigrements, d'insultes que vous n'allez pas me déstabiliser, a-t-elle déclaré. Merci à vous, Sylvain Tranchet. Votre enquête complète est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Deux mots de la météo de demain, encore du temps froid, un temps perturbé également, et des températures en baisse avec beaucoup de pluie.